BFM Business et CB News présentent Hebdo.com avec Aurélie Planex.
Bonjour à tous, bienvenue dans Hebdo.com sur BFM Business. Au programme de cette émission, le classement des publicités les plus regardées sur YouTube en 2017. C'est Babybel qui a décroché la palme. On en parlera avec Wale Badam aussi. Oye Camille, c'est le fondateur et le président de l'agence Derwin. Le marché de la pub digitale qui continue de progresser en France, mais la domination de Google et Facebook est de plus en plus écrasante. Décryptage avec Sophie Poncin, présidente du syndicat des régies internet, et Fabien Magalon, directeur général de l'Alliance Gravity. Et puis en fin d'émission, rencontre avec Lorraine Bigeot, associée à l'agence Osco, agence de communication spécialisée dans l'univers du vin, des spiritueux et de la gastronomie. Hebdo.com, ça commence tout de suite avec les news.
BFM Business, Hebdo.com, les news.
Bonjour Frédéric Roy.
Bonjour Aurélie.
Ça va bien ?
Ça va très bien, et vous ?
Rédacteur en chef de CB News, toujours ?
Toujours, ça ne change pas.
Et Marie Vallogne, bonjour.
Bonjour Aurélie.
Alors Marie, vous avez retenu cette semaine le site Meilleurs Agents qui lance donc une campagne de pub à la télé.
Et oui, c'est une première pour le site d'estimation immobilière en ligne, avec un spot qui met en scène Louis XIV et son contrôleur général des finances, Jean-Baptiste Colbert. Alors tous les deux se lancent dans l'estimation du château de Versailles, et l'idée ici c'est de prouver que n'importe qui peut utiliser le site.
Donc vous êtes sur meilleursagents.com et ici vous rentrez l'adresse.
Versailles, avenue Roy.
Vous mettez le nombre de chambres. Il y en a combien ?
2328.
Le nombre de salles de bain ? Pas de salle de bain. Et là vous cliquez sur voir mon estimation.
C'est le prix ? Précisément.
Chérie, venez voir !
Et la publicité est signée par l'agence Steve.
Et puis Uber repart en campagne et donne la parole à ses chauffeurs avec DDV Paris.
Trois chauffeurs au profil et au parcours différents nous racontent leur quotidien dans de courts films. Des films qui visent clairement à susciter donc des vocations, une sorte de reportage en immersion, diffusé entre autres au cinéma et sur Internet.
C'est pas mal de se lever tôt le matin parce que c'est très agréable déjà de conduire à Paris sans les bouchons. T'allumes les lumières de la ville ou tu les éteins, ça dépend.
Ce métier, pour moi, il signifie l'indépendance. On a le choix de travailler quand on veut. En l'occurrence, en fin de semaine, je mise tout sur le week-end parce que en une soirée, j'arrive à faire le chiffre d'une journée complète.
Cette campagne poursuit le virage entamé en septembre par Uber, avec la volonté donc de redorer son image de marque.
Et puis on termine avec un petit coup de jeune pour Coca-Cola.
Alors, Monsieur Hadley a 84 ans, il est en maison de retraite. Le quotidien paraît bien morne jusqu'au jour où il prend un Coca-Cola sans sucre. Alors là, c'est le déclic. Monsieur Hadley se rend compte qu'il est passé à côté de beaucoup de choses. Il veut rattraper le temps perdu. Il se fait tatouer, il va à la Gap Ride. Bref, il profite et il vit sans limite.
Je suis passé à côté de tant de choses.
I want to break free.
Allô ?
Alice ?
C'est toi que j'ai toujours aimé.
I want to break free.
Je suis ton vrai père.
Cette publicité est signée par l'agence McCann et Mea.
Alors Frédéric, votre préféré ?
J'hésite en fait entre Uber, que je trouve assez... assez dans la ligne de ce qu'ils ont raconté, mais plus vrai que le film de lancement, ce qui est souvent le cas, et Coca qui est plutôt sympa et divertissant et rafraîchissant.
Effectivement, merci Marie, à la semaine prochaine.
BFM Business, Hebdo.com, l'invité.
L'invité de la semaine, c'est Wale Badam aussi, Oye Camille. Bonjour, vous êtes le fondateur et président de l'agence Derwin, agence fondée en 2011. Qu'est-ce qui différencie votre agence des autres ?
Le positionnement. On est vraiment centré sur l'entertainment, c'est ce qui nous passionne, c'est ce qui nous caractérise. On a démarré cette aventure-là il y a 7 ans, en travaillant essentiellement au démarrage pour des clients de l'entertainment, SVOD, télévision, cinéma, jeux vidéo, sport. Aujourd'hui, on est en train d'élargir le périmètre, mais c'est vraiment cette croyance en la capacité de l'entertainment à générer des résultats business pertinents pour les marques qui nous caractérisent.
Alors, vous êtes parmi les web-séries, les publicités les plus vues d'ailleurs sur YouTube pour l'année 2017 avec l'un des épisodes de votre web-série Babybel. Comment est-ce que vous expliquez le succès de cette série ? D'ailleurs, je crois que c'est la deuxième saison déjà.
C'est la deuxième saison, et ce dont on est ravis, c'est qu'on est la publicité de 2017 la plus populaire sur YouTube.
Et vous en avez même une deuxième dans le classement.
Exactement.
Sixième place, je crois.
Et précisément. Ce qui nous fait énormément plaisir, c'est qu'on répond à une problématique des internautes qui considèrent que 83% des internautes sont irrités par la publicité. Donc la volonté pour des marques de produire des contenus qui soient beaucoup plus engageants, qui soient beaucoup plus divertissants, c'est ce qu'on sait faire chez Derwin. Et la preuve est apportée par ce classement édité par YouTube, dont on est très très fiers.
Surtout que c'est des pubs qui ont été regardées en majorité, en entier, ce qui est assez rare sur le web. Alors, vous avez aussi engagé un auteur pour enfants pour écrire les textes. C'est ça la clé du succès ?
En fait, c'est hyper important pour nous de produire quelque chose qui soit considéré comme un épisode d'une série animée à la Pixar. Et pour ça, on allait chercher des talents en dehors de l'agence pour renforcer notre positionnement. Donc, on a travaillé avec Cyril Tisse, qui est spécialisé dans l'animation, qui a écrit Spirou et Fantasio, qui a écrit Foot de rue, qui est vraiment un professionnel de l'entertainment, qui est venu compléter notre expertise de marque, notre expertise créative pour créer des épisodes qui, pour celui du classement, a généré 4 millions de vues. C'est vraiment énorme.
C'est incroyable. Avec justement des youtubeurs en voix off. Quoi. Là aussi, l'idée, c'est de retrouver toute l'ambiance de YouTube et des gens connus.
Quoi. Exactement, c'est l'ambiance du cinéma aujourd'hui. Les films d'animation qui sortent en cinéma, ils sont doublés par des célébrités qui parlent à la cible. Notre cible, elle est double, c'est les 6-12 ans. Et les parents. Et
donc, l'univers des super-héros, parce qu'on ne l'a pas dit, mais c'est quand même des petits fromages super-héros.
Exactement, les super-fromages. Donc, ils ont été doublés en partie par Lola Dubini, qui est une youtubeuse avec un demi-million de followers, et par Amixem aussi, qui ont participé à l'aventure. On est très contents, parce qu'on a fonctionné sur un mode de test and learn avec les équipes de Bell, et c'est un test qui s'est avéré extrêmement positif.
Non, mais en plus, ça va vachement plus loin, parce que je vois que le personnage Super Cheese est installé comme la troisième mascotte la plus connue des enfants. Ça veut dire que le brand content, c'est efficace, ça paye aujourd'hui encore ?
On considère qu'en fait, créer un lien émotionnel avec une marque, quand c'est cohérent, ça a énormément de sens. Baby Bell, c'est du lait et du fun. Historiquement, ça fait 40 ans que cette proposition de valeur existe. Donc la transformer en 2016-2017 en une web-série engageante, qu'on a même appelée une web-série augmentée, ça a été pour nous extrêmement naturel.
Comment ça, augmenter ?
Augmenter, ça veut dire qu'en fait, chacun des 6 épisodes qui a été produit permettait en fait à l'enfant et à sa maman ou à son papa de jouer en fait. Et donc, il y avait une forme d'interactivité intégrée dans chacun des épisodes qui permettait de faire plus qu'un épisode de web-série.
Ah oui, genre, mets ton doigt sur l'écran, exactement. Tape un chiffre.
Retrouve l'épisode avec ton téléphone en te baladant. Donc, d'accord. Vraiment, l'idée, c'est de faire des épisodes, des jouets.
D'accord. Il y a une suite ? Parce que...
On est en discussion pour un troisième opus et on espère que vous pourrez prochainement retrouver les super fromages.
Ok. Et il y a une question que je me posais justement à propos d'Erwin à 7 ans, ce qui est l'âge de raison, évidemment. La question que je me posais, c'est ce positionnement entertainment. Ok. Ça fonctionne, ça attire des marques, mais est-ce que c'est pas limitatif aussi ? Est-ce qu'il n'y a pas dans votre champ de possibilités d'avoir des clients, il y en a peut-être pour qui l'entertainment ça va pas trop marcher, non ?
En fait, la chance qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on vient à peine de démarrer ce virage vers les marques. On a fait 6 ans avec des acteurs de la VOD, de la musique, du cinéma, de jeux vidéo, et ça fait que depuis 2016 que ce positionnement nous amène vers des marques de grande consommation. Aujourd'hui, ce dont on se rend compte, c'est qu'on est de plus en plus sollicité sur du food, sur de l'alcool, sur du transport, qu'il n'y a pas de domaine spécifique qui nous empêche d'aller. Donc on est vraiment très optimiste quant à la capacité de l'entertainment à toucher nos cibles. C'est vraiment ça ce qu'on fait, c'est créer un lien émotionnel entre la marque et la cible. Les marques avec lesquelles on ne pourra pas travailler, c'est celles qui n'ont pas de lien émotionnel avec leur cible, soit très peu.
Vous êtes aussi présent à l'international. J'ai vu que vous avez ouvert un bureau à Berlin. Pourquoi ce choix ?
Alors, nos équipes qui étaient historiquement à Paris, allemandes, ont exprimé le souhait d'ouvrir une antenne à Berlin. Et ayant une démarche toujours très entrepreneuriale, on les a permis d'ouvrir cette antenne-là à Berlin qui existe du coup depuis 3 ans maintenant.
Merci beaucoup, allez, madame aussi. Oyez Camille, fondateur et président de l'agence Derwin.
BFM Business, Hebdo.com, l'édito.
Et cette semaine, on retrouve Valérie Potin.
Et oui, Valérie qui va nous parler de l'Observatoire des marques dans la cité, réalisé par Havas Paris. Alors, qu'est-ce qu'il dit cet observatoire ?
C'est un observatoire dans lequel on apprend, pour commencer déjà, que face à des gouvernements ou à des États qui sont parfois jugés défaillants sur certains sujets, eh ben, les Français attendent finalement beaucoup des entreprises, puisqu'ils sont aujourd'hui 73% à considérer que les entreprises ont beaucoup de pouvoir, ont peut-être même le plus de pouvoir pour changer la société. Ils sont aussi 81%. 25% à considérer que les États, aujourd'hui peut-être plus que jamais, ont besoin de ces entreprises pour gérer la cité. Alors ces scores qui sont un peu impressionnants, ils s'appuient en fait sur une réalité qui est que certaines multinationales, on va prendre l'exemple par exemple des GAFA, ouais. Elles génèrent des revenus qui sont supérieurs au PIB de certains pays industrialisés comme le Danemark. Ouais. Du coup, ça pousse les Français notamment à considérer qu'à l'avenir, ils sont 63% à considérer qu'il faudra considérer, enfin oui, je suis désolé, je me répète, mais ils sont 63% à considérer qu'il va falloir vraiment traiter ces multinationales comme des États. Ils sont aussi d'ailleurs 63% à considérer que à l'avenir il faudra peut-être envisager d'avoir des ambassadeurs des ambassadeurs auprès de ces marques. C'est d'ailleurs ce qu'a fait le Danemark dont on parlait, qui a nommé récemment donc Kasper Klinge, premier ambassadeur du Danemark auprès des GAFA.
Est-ce que ça veut dire que les marques, elles jouent sur un pied d'égalité avec les États, Valérie ?
Alors oui, alors ça ne veut pas dire qu'on peut se passer des États. En revanche, ce qui est clair, c'est que il s'agit plutôt d'accepter l'idée que l'entreprise et les entreprises et les marques, elles peuvent être la solution pour régler un certain nombre de questions. Par exemple, 55% des Français estiment qu'elles sont peut-être mieux placées pour traiter les questions relatives à l'égalité homme-femme. Elles sont 66% aussi à considérer qu'elles sont mieux placées pour traiter les problèmes de chômage. 62% pour favoriser l'insertion des jeunes.
Alors les marques, elles doivent entrer en politique ?
Alors oui, en tout cas ce qu'elles peuvent faire dans un premier temps, c'est peut-être adopter une posture militante et engagée sur des sujets de société. C'est ce qu'ont fait d'ailleurs des marques dans leur prise de parole publicitaire, plutôt comme Budweiser et Starbucks, si vous vous souvenez l'année dernière, pour contester un peu le décret de Donald Trump, le décret anti-immigration. Elles peuvent aussi s'engager de manière un petit peu plus concrète, comme l'a fait Starbucks une fois encore dans le domaine de l'éducation, où là la marque a quand même investi alors 250 millions de dollars pour envoyer chaque année 5000 salariés étudier en université, ce qui est quand même énorme. Elles peuvent aussi, l'engagement, il peut être tout simplement sur un marketing engagé, un marketing altruiste. C'est ce qu'a fait Gillette, qui a développé récemment un rasoir qui permet en fait à un aidant de raser une personne en situation de dépendance. En tout cas, ce qui est essentiel dans tous les cas, c'est que cet engagement, il soit réel et qu'il soit sincère. Et a priori, c'est une impression que partagent déjà 52% des Français. Maintenant, il faut qu'ils soient convaincus.
Merci beaucoup, Valérie Potin. On vous retrouve très prochainement dans Hebdo.com.
BFM Business. Hebdo.com. Le Zoom.
Et aujourd'hui, on va s'intéresser au marché de la pub digitale en France avec Sophie Poncin. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes présidente du syndicat des régies Internet et Fabien Magallon. Bonjour.
Bonjour.
Directeur général de l'Alliance Gravity, Alliance qui regroupe 150 médias dans la publicité digitale. Sophie Poncin, avec vous, on va parler notamment de l'observatoire de l'IPUB. Le marché de la pub digitale a dépassé l'année dernière les 4 milliards d'euros pour la première fois, progression de 12%. Le digital confirme sa place de premier média devant la télé. Comment on explique cette progression ? Il y a encore du potentiel sur Internet ?
Il y a encore du potentiel parce que finalement, ces investissements suivent les usages et les usages migrent de manière très précise depuis quelques années sur le digital, que ce soit sur le desktop, que ce soit sur le mobile. Donc finalement, les annonceurs investissent là où se trouve l'audience. Et aujourd'hui, l'audience migre sur le digital. Donc tout ça est très très normal et ça explique la forte dynamique qu'on a pu encore observer, c'est vrai, en 2017.
Mais il y a eu pas mal de doutes sur l'efficacité des pubs digitales, les mesures d'audience, justement, et ça n'a pas freiné pour autant les investissements. Moi, je suis assez étonnée de ça.
Non, parce que finalement, le digital, c'est peut-être le média qui se traque le mieux et qui est le plus à même à fournir des critères d'efficacité. Et de plus, de nombreux mesureurs sont venus depuis cette dernière année renchérir tous ces critères. Et aujourd'hui, la mesure est là, donc tout est traquable, tout est calculable, tout est mesurable.
Frédéric.
Alors, cela dit, cette progression qui est plutôt plaisante est quand même essentiellement captée par deux acteurs qui sont Google et Facebook, qui prennent 92% du marché. Face à ça, des alliances, Gravity est la plus importante en nombre de participants. Est-ce que c'est suffisant quand on voit la puissance des GAFA ?
Alors, Alliance Gravity, c'est effectivement un rassemblement de grands groupes français qui a l'ambition de proposer une alternative puissante et crédible aux solutions dominantes proposées par les acteurs transnationaux et effectivement les GAFA. Mmh. Comment on s'y prend pour essayer de se positionner à leur niveau? D'abord en rassemblant effectivement très largement, vous l'avez dit, 150 éditeurs, membres, partenaires. Ensuite, en diversifiant la nature des membres qui rejoignent l'Alliance. On travaille aujourd'hui avec quatre grands types de partenaires, hein, et de membres. D'abord des éditeurs médias qui sont issus du monde de la télévision, du monde de la radio, du monde de la presse, des opérateurs télécoms. On a la chance de travailler avec Orange et avec SFR également, des acteurs du e-commerce et du retail, Fnac ou Darty par exemple, et des acteurs du search comme Solocal.
Pardon, hein, mais je voyais que quand même presse télé radio, c'est 22% seulement du marché de la pub digitale, ça fait moins de 800 millions d'euros. Pardon, mais est-ce que c'est pas peine perdue déjà, quoi?
Ou est-ce qu'inversement, est-ce que c'est le début?
Non, c'est pas peine perdue parce que effectivement, il y a des initiatives. En 2017, on a vu justement de nombreuses initiatives. Gravity en est une. Il y en a d'autres. Il y a des regroupements comme Skyline. Il y a aussi des initiatives côté annonceurs avec l'UDA qui annonce des leurs programmes faire. Qui tout ça vise à monter en gamme le marché, à le premiumiser. Nous avons lancé le label Digital Ad Trust, ouais. Et on espère bien restaurer la confiance des annonceurs. Donc on est quand même dans un changement de paradigme. Et ce marché, il est aujourd'hui un marché de la pub responsable. C'est ça qui va donner le là en 2018, c'est ça qui va donner aussi le là de la reconquête.
Frédéric me faisait une réflexion la semaine dernière, il me disait s'il n'y avait pas Gravity et Skyline, en fait, Facebook et Google, ils auraient 100% du marché. C'est votre avis, Fabien Maglan?
Alors, bon, on n'est pas seul, hein. Il y a d'autres acteurs qui cohabitent également. Ce qui est certain, c'est que la tendance, il faut essayer de la contrer. Et effectivement, on essaye de se positionner avec les armes de nos concurrents. Et aujourd'hui, quand on observe les facteurs clés de succès de ces acteurs, c'est d'abord une massification des audiences, c'est-à-dire énormément de visites quotidiennes sur les espaces publicitaires de ces acteurs, de ces plateformes. Et donc, en se rassemblant, on réussit à atteindre les mêmes niveaux. Donc, dans le cas de Gravity, on est aujourd'hui à 53% de couverture quotidienne adressable sur Internet, donc un peu plus d'un internaute sur deux. En rassemblant aussi toutes ces marques issues de univers différents, on réussit à créer une proposition de valeur sur la data, c'est-à-dire sur le ciblage et donc in fine sur la performance des campagnes publicitaires qu'on délivre, qui est incomparable avec ce que chacun des acteurs individuellement pouvait proposer. Pour illustrer le propos, on a aujourd'hui la capacité, au sein de la plateforme Gravity, d'adresser des moments de vie très valorisables pour les annonceurs, comme le moment de la naissance au sein d'un foyer ou un déménagement. Il y a 3 millions de déménagements par an, enfin de foyers qui déménagent tous les ans au sein de Gravity. Aujourd'hui, grâce à la mise en commun d'un certain nombre de données, on réussit à adresser environ la moitié de ces déménagements.
Frédéric ?
Mais est-ce que, malgré tout, il n'y a pas encore trop d'alliances face à des acteurs aussi puissants qui sont considérables, des gens qui ont des groupes qui ont 2 milliards de clients dans le monde, etc. Est-ce qu'il faut pas être, est-ce qu'on peut pas imaginer à terme qui est voilà une seule alliance face à Google?
Je crois que de toute façon ce sont les annonceurs finalement qui vont rétablir l'équilibre parce que eux-mêmes ont monté leurs exigences et ça va poser d'ailleurs des questions sur les plateformes parce que il y a un certain nombre de critères genre la brand safety, le risque zéro n'existe pas, il y a la question de la mesure, de l'automesure, de mesure par des tiers. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui ce nouvel environnement et cette exigence client. Donc j'ai envie de dire là maintenant le sujet il est dans les mains des annonceurs. Ils ont la possibilité d'opérer un rééquilibrage, ils ont les moyens, ils ont la mesure, donc tout est en place pour opérer ce changement.
Ça veut dire que les choses vont bouger cette année et que le baromètre sera différent l'année prochaine, vous pensez?
Oui, j'en fais le pari.
Merci beaucoup Sophie Poncin, présidente du syndicat des régies Internet, et Fabien Maglan, directeur général de l'Alliance Gravity.
BFM Business, Hebdo.com, comme un chef.
Et pour finir, nous sommes avec Lorraine Bigeot. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes associée à l'agence OSCO. Alors, l'agence OSCO, c'est une agence de communication et relations presse spécialisée dans l'univers des vins spiritueux et gastronomie. J'imagine que vous devez faire face dans votre métier de tous les jours à une réglementation assez contraignante. Est-ce que c'est facile de s'affranchir au quotidien de ces contraintes? Comment est-ce que vous les gérez dans votre façon de communiquer?
J'imagine que vous voulez parler de la loi E20,
absolument,
qui est une loi qui encadre scrupuleusement tout ce qui est consommation et médiatisation du vin et des spiritueux. En effet, c'est quelque chose qu'on doit tenir compte de manière inconditionnelle dans toutes les actions que nous mettons en place pour nos clients. Après, dans la mesure où nous sommes vraiment dédiés à porter un message entre un client, que ce soit un vigneron, que ce soit un chef, alors les chefs sont moins concernés par le sujet, mais ou un fabricant d'alcool, nous on a quand même la particularité de s'adresser à des professionnels, que ça soit des médias, c'est notre cible principale, ou effectivement des professionnels, ce qu'on appelle des prescripteurs, donc effectivement des chefs, hein, des sommeliers, des barmen, tout cela c'est effectivement plus facile en termes de prise de parole et de discours positionné.
Alors, vous êtes chargé de la communication là d'une nouvelle marque qui s'appelle Guillotine Vodka. Comment est-ce qu'on prépare un lancement de produit comme celui-ci ?
Alors déjà, faut croire en son produit. Je pense que c'est quand même l'élément déterminant pour tout communicant. Il faut avoir la capacité justement de pouvoir dégager. C'est un petit peu comme un film, si vous voulez. Vous avez un casting, un début de synopsis, et vous avez envie de raconter une histoire. C'est exactement ce qu'on fait quand on se positionne sur la communication d'un produit. Donc Guillotine Vodka, c'était effectivement, il était facile de croire au produit parce que c'est un produit qui est très engageant pour un communicant. Il y a un nom qui est extrêmement impactant, il y a un produit qui est extrêmement premium, il y a un produit qui est extrêmement naturel, il n'y a pas d'adjuvant, il n'y a pas de colorant, donc on est sur une traçabilité qu'on peut fournir. Et ça, c'est très important en ce moment d'avoir une traçabilité qu'on peut donner aux consommateurs. Il y a une telle crise de confiance dans l'univers de la consommation, que ça soit du vin, des spiritueux, également des produits en matière de restauration, de gastronomie, de sourcing. Et bien nous, on a tous les éléments avec un produit qui est complètement séduisant, qui est 100% français jusqu'au bout des ongles. On a tous les éléments pour pouvoir raconter une belle histoire.
Alors justement, comment est-ce que vous la mettez en scène, cette histoire, après, une fois que vous avez défini les arguments phares du produit ?
Alors l'idée, c'est justement de pouvoir trouver quelles sont les aspérités. Nous, on appelle ça les aspérités chez nous. C'est un petit peu barbare en langage de communicant. On a beaucoup de petites marottes comme ça. C'est justement trouver un petit peu quels sont les éléments clés, quels sont les mots qui vont être porteurs, qui vont, là en l'occurrence, effectivement, cette notion de 100% française, ce qu'on appelle le storytelling, hein, qui est très important. Donc on va raconter cette histoire française. On va cibler une audience qui est souhaitée par justement le client. Donc en l'occurrence, nous, on cherche à infiltrer plutôt la sphère presse, gastronomie, presse premium, lifestyle, ouais. Puisque effectivement c'est le ciblage direct, hein, de consommateurs qui nous intéresse. Et en l'occurrence, on va s'adresser différemment à chaque prescripteur. Il n'y a pas une manière de communiquer, il y a un message par cible.
Ah mais c'est hyper intéressant. Comment vous faites pour adresser comme ça des messages différents à chaque cible ?
Alors on a un discours de base, hein, qui ouais. est, on va pas réinventer 50 fois l'histoire de cette vodka, de toute façon elle se tient déjà toute seule. En revanche, on va chercher les tons, la manière dont on va mettre en musique sera différente selon qu'on s'adresse effectivement à un prescripteur qui va être un prescripteur type média, presse spécialisée ou presse grand public, ouais. où là on va être sur des discours qui vont plutôt toucher l'angle économique ou parfois l'angle institutionnel ou l'angle pourquoi pas agricole ou savoir-faire. Et puis, en l'occurrence, après, si on va chercher du prescripteur professionnel, c'est-à-dire du sommelier ou du chef ou du barman, c'est toute la qualité intrinsèque du produit qui va faire ses preuves et qui sera démontrée, pardon, au travers de son utilisation, au travers de la mixologie ou de son utilisation à table.
Comment est-ce que vous faites pour définir le produit auquel vous croyez ? Vous me dites que c'est très important de croire au produit.
Ouais.
Est-ce qu'il y a des choses que vous interdisez tout simplement parce que vous n'y croyez pas, quoi ?
Un produit qui n'a pas une qualité intrinsèque suffisante, effectivement, c'est compliqué. C'est-à-dire que vous pouvez avoir tout le packaging extraordinaire qui peut être mis en place, hein, tous les moyens déployés pour faire quelque chose de vraiment superbe. S'il n'y a pas le fond du produit, c'est compliqué pour un communicant de le mettre en place. Et c'est logique parce que vous vous retrouvez face à des prescripteurs qui ont un degré de connaissance assez élevé. Donc, vous pouvez pas leur vendre n'importe quoi et Dieu merci.
Et ça vous est arrivé donc de mettre des projets de côté comme ça, des choses que
oui.
vous dites non, ça c'est pas pour nous.
Oui, ou quand un projet n'est pas mûr aussi. C'est-à-dire qu'on peut croire en un projet, mais se dire que le timing n'est pas opportun ou que la conjoncture de consommation effectivement n'est pas la bonne, n'est pas idéale. On peut avoir tendance soit à décliner la responsabilité de prendre une communication sur ce produit, soit à le décaler et à le construire, à aider, à le consolider.
Ça fait partie aussi de votre métier d'aller conseiller la marque.
Oui, tout à fait, oui. C'est de savoir à quel moment on peut vraiment se positionner idéalement pour porter le message sous les meilleures couleurs et sous les meilleures conditions.
Merci beaucoup Lorraine Bigeot. Je rappelle que vous êtes associée à l'agence OSCO, agence de communication et relations presse spécialisée donc dans l'univers du vin, vous l'aurez compris, des spiritueux et de la gastronomie, tout ça bien sûr à consommer avec modération. Merci également à Frédéric Roy, rédacteur en chef de CB News, d'avoir été à mes côtés. On se retrouve très vite la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Hebdo.com sur BFM Business. En attendant évidemment les replays sur notre site internet bfmbusiness.com.
Tout ce qu'il faut savoir sur les marques et leurs stratégies de communication. Hebdo.com sur BFM Business.